Point d'orgue. Une émission proposée par Jean Percy.
Madame, monsieur, bonjour et bienvenue dans Point d'orgue, votre rendez-vous de musique sacrée. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro consacré aux merveilles du répertoire. Et aujourd'hui, je vous propose une émission qui va être entièrement consacrée à la joie de l'Ascension, une fête très particulière du calendrier chrétien où le Christ quitte la terre pour entrer dans la gloire céleste. C'est une fête lumineuse, triomphale, souvent éclatante dans l'histoire de la musique et qui a inspiré certains des plus grands compositeurs européens. Alors je vais vous faire le petit sommaire de cette émission. Nous allons d'abord entendre Johann Sebastian Bach avec le grand chœur d'ouverture de la cantate BWV 11, puis ensuite Olivier Messiaen et ses célèbres transports de joie, avant de conclure cette émission avec l'anglais William Byrd et son motet Viri Galilei. Alors nous allons ouvrir cette émission avec l'une des plus éclatantes partitions sacrées de Jean-Sébastien Bach, la cantate BWV 11, Lobet Gott in seinen Reichen, Louez Dieu dans son royaume. C'est une cantate que j'affectionne particulièrement, elle a été composée pour la fête de l'Ascension, probablement en 1735 à Leipzig, et cette œuvre occupe une place particulière dans le catalogue de Jean-Sébastien Bach. Alors on l'appelle souvent l'oratorio de l'Ascension, tant ses dimensions et son souffle dépassent le cadre habituel de la simple, si j'ose dire, cantate liturgique. Alors il faut savoir que Jean-Sébastien Bach a écrit d'autres oratorios qui sont beaucoup plus longs, celui de l'Ascension est lui bien plus ramassé, c'est pour ça qu'en fait on hésite à le qualifier de simple cantate, mais c'est vrai que le terme d'oratorio de l'Ascension est resté. Alors cette œuvre raconte l'Ascension du Christ, à travers des récits bibliques, des airs méditatifs et de vastes interventions chorales, un peu comme à chaque fois qu'on a une cantate de Jean-Sébastien Bach. Et comme souvent, chez ce compositeur, la théologie devient ici musique, tout est pensé pour évoquer le passage du Christ de la terre vers la gloire céleste. Et cela s'entend, vous allez vite le comprendre, dès les premières mesures, avec une instrumentation particulièrement riche, particulièrement fastueuse. Bach convoque trois trompettes, les timbales, les flûtes, les hautbois, les cordes et le continuo. Et les trompettes et les timbales ne sont jamais employées au hasard chez Bach, elles sont les instruments de la royauté divine et de la gloire céleste. Vous pouvez notamment en prendre pleinement conscience lorsque vous écoutez l'oratorio de Noël ou celui tout aussi célèbre de Pâques. Dans les grandes fêtes du calendrier luthérien, Noël, Pâques, l'Ascension, justement, elles symbolisent toute cette splendeur. Et c'est pour ça que ce chœur d'ouverture est construit comme une sorte d'immense acclamation. Les voix semblent portées vers le ciel par les fanfares de trompettes, tandis que les timbales donnent à l'ensemble un caractère presque cérémoniel et impérial. Donc on a presque un Christ en majesté qui s'impose à nous par le biais de cette musique. Alors on va entendre dans cette musique une forme de joie collective rayonnante. Ça, vous allez l'entendre avec les rythmes un petit peu chaloupés qui ont ce côté vraiment très festif, très joyeux, mais aussi, comme toujours chez Jean-Sébastien Bach, une véritable architecture spirituelle. Bach ne décrit pas seulement un événement biblique, il donne à entendre l'ouverture des cieux, et c'est particulièrement vrai avec ce premier chœur qui, là aussi, est assez symptomatique de ce que sait faire Jean-Sébastien Bach. Alors, curieusement, dans cette cantate-là, Jean-Sébastien Bach ne commence pas par une sinfonia. Souvent, d'ailleurs, il y a cette installation de l'orchestre qui se fait. Là, vous avez déjà alors une courte introduction par l'orchestre, mais immédiatement, le chœur vient se projeter dans cette joie de l'Ascension. Ici, nous avons une interprétation magistrale faite par la Fondation Jean-Sébastien Bach.
Thank you.
J'espère que vous avez bien compris avec cet extrait pourquoi ce morceau est l'un de mes préférés de Jean-Sébastien Bach. Effectivement, il y a une joie qui contamine tout l'espace, effectivement, des auditeurs qui peuvent se rendre compte ce à quel point la musique communique cet aspect glorieux du Christ qui quitte la terre pour aller vers le ciel. C'est comme si les cieux se déchiraient et les nuages laissaient entreapercevoir la lumière de la gloire de Dieu, une musique extraordinaire. Et naturellement, si ce premier chœur vous a plu, je vous invite à découvrir l'entièreté de la cantate. Comme d'habitude chez Jean-Sébastien Bach, donc vous n'avez pas que ces grands chœurs fabuleux, vous avez aussi des chorales, là aussi tout aussi somptueux, et puis des airs et des récitatifs qui sont tout autant de commentaires musicaux de la vie du Christ et là, en l'occurrence, de sa montée vers le ciel. Alors nous venons d'entendre donc ce grand chœur d'ouverture de la cantate de l'Ascension, BWV 11 de Jean-Sébastien Bach, cette musique qui frappe par sa lumière et son énergie, mais aussi par son incroyable maîtrise contrapuntique. N'oubliez pas que Jean-Sébastien Bach est un maître du genre, et même dans les moments les plus triomphants, Bach conserve cette rigueur d'écriture propre à sa charge d'enseignant, hein, c'est ce qu'il était à Leipzig, et qui donne à cette musique une impression d'évidence presque surnaturelle. Alors après cette vision baroque et liturgique de l'Ascension, on va changer complètement de décor et même de pays. On va partir en France au XXe siècle et retrouver l'un des grands maîtres de l'élévation spirituelle avec Olivier Messiaen. Alors je vais vous donner quelques petits éléments biographiques. Il est né en 1908 à Avignon et il est mort à Paris en 1992. Et Messiaen, c'est l'une des grandes figures majeures de la musique française du XXe siècle. En fait, il a été organiste titulaire de l'église de la Trinité à Paris pendant plus de 60 ans. Il a été un grand pédagogue admiré, compositeur profondément catholique, presque mystique d'ailleurs, et il développe un langage immédiatement reconnaissable, notamment par ses harmonies éclatantes, ses rythmes complexes qu'il a puisés notamment dans la religion hindoue et sa fascination qui est restée très célèbre pour les chants d'oiseaux et surtout recherche permanente de la couleur sonore. Pour la petite anecdote, il faut savoir que Olivier Messiaen, dès qu'il se baladait en vacances, il avait un petit carnet et il pouvait reconnaître les chants d'oiseaux et il les retranscrivait en notes de musique. Ça donne effectivement cet aspect festif et chez certaines de ses compositions, cet aspect éclatant, comme si effectivement les oiseaux qui étaient les premiers musiciens inspiraient la musique de Messiaen. Alors chez Messiaen, la musique est souvent pensée comme une manifestation du mystère divin. Je vous disais qu'il était assez mystique. Et c'est vrai qu'il ne cherche pas simplement à illustrer un texte religieux. Il veut traduire l'irruption du sacré dans le son. Et ça, c'est très important parce que lui, il voyait beaucoup de lumière dans la musique. En fait, il était un adepte de la synesthésie, on va en reparler. Alors, les transports de joie sont extraits du cycle L'Ascension, qu'il a composé en 1933 et qui représente précisément cette explosion de joie spirituelle. Le sous-titre de la pièce est d'ailleurs extrêmement révélateur, « Transport de joie d'une âme devant la gloire du Christ qui est la sienne ». Et vous allez l'entendre, tout ici est mouvement, lumière, éclat. Vous avez des accords massifs avec des rythmes très martelés dès le début, les registrations éclatantes de l'orgue qui créent une musique presque volcanique. Et vous allez voir que Messiaen utilise l'instrument comme une sorte d'immense orchestre de couleurs. Je vous avais parlé de la synesthésie, hein, donc il faut bien savoir que Messiaen, quand il composait, quand il entendait la musique, il voyait des couleurs. Et en fait, ça s'entend dans cette musique-là. Vous avez dès le début une cascade d'accords qui partent des cieux qui vont vers la terre et ensuite qui vont remonter, vous allez entendre, avec une joie explosive. Vous avez des superpositions rythmiques et des fulgurances harmoniques qui donnent l'impression d'une joie, d'une exultation qui déborde, littéralement, de toute mesure humaine. Mais cette joie n'est jamais superficielle, elle est mystique, donc à l'image de son compositeur, contemplative et en même temps très triomphale. C'est l'idée d'une âme saisie par la vision de la gloire divine. Alors nous allons entendre cette œuvre interprétée à la basilique Saint-Sernin par Jean-Claude Reynaud. Et là aussi, pour la petite anecdote, il paraît qu'il a fait ça en une seule prise, m'a raconté Michel Bouvard. Donc il faut quand même avoir une vision, vous allez vite vous en rendre compte, de la difficulté de la partition qui est si restituée par une facilité déconcertante. Et là aussi, on peut se dire que la joie de l'interprète, en l'occurrence Jean-Claude Reynaud, irradie la partition autant que celle de son propre compositeur. Voici donc les transports de joie d'Olivier Messiaen. La joie explosive et démonstrative d'Olivier Messiaen dans ses Transports de joie, une œuvre magistrale qui fait partie des plus jouées du compositeur. Et pour cause, effectivement, elle est si démonstrative. Pour une fois, effectivement, on n'a pas tellement de mal à se figurer ce rapport entre la joie et la gloire du Christ qui rentre dans le ciel. Là, le langage est parlant. Et quand je vous parlais de synesthésie tout à l'heure, évidemment, là, on a un aspect très lumineux, presque comme si on se retrouvait face à une forme de vitrail. C'est là tout le génie d'Olivier Messiaen, être capable, avec sa musique, de faire de la musique aussi figurative. Et naturellement, si ça vous touche, vous pouvez écouter tout le cycle de l'Ascension qui a d'ailleurs été écrit pour orchestre. Donc là aussi, ça vous donne une version différente de ce qu'avait le compositeur en tête. Donc ayez la curiosité non seulement d'entendre tout le cycle de l'Ascension, mais également d'entendre sa version pour orchestre. C'est absolument magistral et ça donne un éclairage nouveau. Et là aussi, ça donne une autre dimension. Voilà donc pour cette œuvre, ces transports de joie absolument magistraux. Et maintenant, pour terminer cette émission, on va revenir à une période bien plus ancienne, la Renaissance anglaise, avec l'un de ses plus grands compositeurs, William Byrd, dont je vous parle beaucoup ces temps-ci. Alors je vous rappelle un petit peu sa biographie. Il est né en 1540 et mort en 1623. Et Byrd occupe une place tout à fait singulière dans l'histoire de la musique anglaise. Pourquoi est-ce que cette histoire est si particulière? Eh bien, tout simplement parce que c'était un compositeur qui était catholique dans une Angleterre devenue anglicane. C'était une période de transition et il traverse les tensions religieuses de son époque tout en restant protégé par la cour d'Élisabeth Ier. Alors, pourquoi? Tout simplement parce qu'il a été quand même assez habile, c'est-à-dire il a quand même composé pour la musique anglicane. Son cœur est resté catholique. Il a écrit beaucoup d'œuvres pour la liturgie catholique, dont celle que nous allons entendre dans quelques instants. Et ce qui fait qu'en fait, il y a une forme de clandestinité dans l'écriture de William Byrd qui donne toujours quelque chose d'une grande profondeur et en même temps d'une grande intimité. Son œuvre est donc l'héritage polyphonique de la Renaissance et elle est d'une expressivité qui est très personnelle. Ça fait partie de ces grands compositeurs de la Renaissance dont on comprend vite le langage. Alors le motet qui nous intéresse aujourd'hui, le Viri Galilei, est écrit spécialement justement pour la fête de l'Ascension et le texte reprend les paroles adressées aux apôtres, hommes de Galilée, « Pourquoi regardez-vous vers le ciel ?» Alors en fait, il s'agit tout simplement de l'introïte du jour, là aussi l'introïte grégorien, mais il en a fait une œuvre absolument magistrale, vous allez vite l'entendre. Cette œuvre est très loin d'être austère. Là aussi, alors à la sauce Renaissance, hein, il y a une joie immense, très communicative. Vous allez vite vous en rendre compte là aussi. Les voix semblent flotter les unes au-dessus des autres. Là aussi, c'est l'écriture contrapuntique qui l'exige, mais avec une grande douceur. Byrd construit une polyphonie très souple, presque aérienne, dans laquelle les fameux Alléluia prennent une dimension tout à fait angélique, juste avant une doxologie qui, là, est un petit peu plus concentrée. Et on a parfois l'impression d'entendre une musique suspendue, hors du temps. Vous me direz, c'est le propre de la musique de la Renaissance, mais ici, la clarté des lignes vocales, ainsi que la fluidité des imitations, donne à ce motet une grâce toute particulière. Alors, après la majesté de Bach et l'explosion mystique de Messiaen, Byrd nous offre une autre vision de l'Ascension, plus intérieure, plus céleste peut-être, mais profondément joyeuse elle aussi. Alors ici, c'est John Rutter qui dirige les Cambridge Singers.
Thank you.
Extraordinaire Mote Viri Galilei de William Byrd. Vous avez compris évidemment la structure de cette œuvre, un petit peu déclamative au début, qui reprend les textes de l'introïte grégorien, puis ces Alléluia profondément joyeux mais en même temps très serein et qui donne cette impression vraiment de joie intérieure et assez contemplative, très propre à William Byrd, de la musique extraordinaire. Là aussi, j'espère qu'elle vous a plu. Quant à moi, puisque j'ai fait le tour de cette fête de l'Ascension qui va avoir lieu dans quelques jours, eh bien, je voulais vous donner rendez-vous très bientôt à la Basilique Saint-Sernin. Le 30 mai, pour être précis, vous aurez un concert marial avec la maîtrise de la Scola Cantorum, dirigée par Cécile Capomacio, et également le chœur d'hommes de la Scola, du très très beau répertoire, avec des petites surprises, notamment le Magnificat du Durante, qui est une œuvre absolument extraordinaire. Donc je vous invite à venir prendre vos places sur le site de la Scola Cantorum. Voilà pour moi, je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Point d'Orgue. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.